Voix nue. Toute cette semaine, Alain Lefkovitch rencontre Dounia Bouzard. Ce soir, l'énergie de la douleur.
Bonsoir Dounia Bouzard, vous êtes anthropologue, spécialiste du fait religieux et notamment de l'islam de France. Vous travaillez depuis 15 ans sur les phénomènes de ce qui est aujourd'hui à la une de l'actualité, depuis les attentats de janvier 2015, depuis également ceux du 13 novembre à Paris et de ceux de Bruxelles du 22 mars dernier, à savoir la radicalisation, un phénomène que vous combattez quotidiennement depuis avril 2014 avec le CPDSI, le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Hier, nous avons beaucoup parlé de votre enfance, de vos parents. Aujourd'hui, vous êtes reconnu par le gouvernement et par les acteurs de terrain pour votre expertise. Pourquoi, à 16 ans, vous décidez d'arrêter l'école et de ne pas passer le bac ?
Ah, je m'ennuie profondément. Je comprends pas toujours le sens des interdictions des adultes. Tout m'ennuie profondément. Je lisais énormément. Je faisais quantité de choses, mais qu'est-ce que je m'ennuyais à l'école Pourtant, j'avais des bonnes notes, hein. J'étais pas un cranc, je suis restée très bonne élève jusqu'à mon dernier jour d'école, avec des hautes moyennes. Mais je passais mon temps à emmerder les adultes, je crois que je peux le dire comme ça, tellement tout me semblait coincé, rigide, pas épanouissant, contre-productif, stigmatisant.
Malgré cette famille de profs, de militants, de féministes...
Malgré ma mère, féministe, militante et intellectuelle, parce que ma famille se résume à ma mère. Oui, malgré ça, parce que je fais quand même plein de choses à l'extérieur, mais ça ne suffit pas à compenser. Je pense que j'aurais dû sauter des classes pour pouvoir vraiment être occupée. Là, j'ai quand même 18 de moyenne sans rien faire. Je trouve les profs du collège étriqués psychiquement, mais alors vraiment, rien les amène à finalement... Nous couper la pensée, il y a pas d'épanouissement possible dans ce collège-là. Je suis quand même dans un collège aussi classe moyenne, un peu petit bourgeois quand même. On fait pas des choses extraordinaires, on fait pas des expérimentations extraordinaires. Bon, bref, je suis régulièrement dans les fêtes de l'UMA toujours. Je fais beaucoup de choses. Alors j'essaye de faire un peu de subversion au sein du collège, hein, pour réveiller mes copains et mes copines que je trouve hyper conditionnés, hyper... Donc j'essaye de faire un peu la révolution, donc je me fais tout le temps rappeler à l'ordre.
Vous voulez les réveiller sur quoi ?
Bah surtout sur frères et sœurs, unissons-nous pour que les richesses soient partagées. Les femmes, réveillez-vous sur les stigmates sur lesquels on vous enferme dans les publicités. J'ai 50 motifs de révolution, en fait. Je n'arrête pas. Je distribue le journal des jeunesses communistes dans mon petit collège bourgeois, dans ma petite banlieue bourgeoise, qui me suscite plein de convocations. On fait l'amour à ma mère. Ma mère tient avec moi, bien sûr, puisque ma mère est elle-même révolutionnaire. Donc, on s'en sort bien toutes les deux. Mais je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie ? Qu'est-ce que c'est ennuyant, tout ça ? Je trouve que tout le monde pense de la même façon. Voilà. Donc, je claque tout. Je claque tout, avec un 18 de moyenne, hein, général, je claque tout et je pars faire palefrenière dans un club d'équitation et je décide d'utiliser l'équitation pour réinsérer des handicapés parce que j'ai envie d'être utile, parce que j'ai envie de servir à quelque chose, parce que je m'ennuie comme un rat mort. Et du coup, je claque mes études, j'ai même pas 16 ans, je viens juste le jour de mes 16 ans ou quelque chose comme ça. Et je prends une petite mobylette et tous les jours, je monte en haut d'une colline complètement glacée, les doigts cyanosés de froid parce que j'habite Grenoble. Et je vais faire 6 heures de palefrenière. Donc, je vais nettoyer les chevaux dans un vieux club d'équitation un peu dégueulasse, mais que j'aime encore beaucoup. Et en compensation, j'ai le droit de monter 2 heures à cheval par jour pour passer mes diplômes, pour devenir monitrice, et je veux réinsérer des handicapés. C'est ma première passion. Je décide que l'animal, c'est une possibilité pour redonner confiance à des enfants qui ont un handicap moteur ou mental. Je me débrouille très bien. Je suis monitrice stagiaire très vite. Je réussis très vite. Ma mère me laisse travailler parce qu'elle estime par contre que je dois assumer mes choix, donc elle finance pas tout ça. Elle me dit, tu te démerdes, tu veux arrêter tes études, eh ben débrouille-toi. Tu veux passer des diplômes, eh ben paye-le toi-même. Donc voilà, je rentre dans cet univers et c'est à ce moment-là que je rencontre mon premier mari, qui donc décède 2 ans plus tard avec un cancer fulgurant du cerveau où j'ai même pas le temps de me préparer psychologiquement.
Vous avez un enfant avec lui, Dounia Bouzard. Comment vous vous en occupez à partir du moment où ce père, le père de cet enfant décède ?
Ce qui me sauve quand Patrick est mort, c'est une espèce de violence qui surgit en moi, où je me dis je survivrai quand même. C'est un leitmotiv. J'en veux au monde entier. Je m'enferme chez moi avec ma fille. J'avais déjà arrêté mes études, donc voilà, ça s'était réglé. Je fais juste du porte-à-porte pour survivre quand même, parce que ma mère m'aide, mais elle fait attention à ce que je reste, comment dire, que j'ai conscience que maintenant j'ai un enfant et que je peux pas me laisser aller et que je dois travailler pour manger. Je crois que ma mère, c'est pédagogique de sa part, hein. Elle pourrait m'entretenir... avec son salaire de prof, on pourrait partager, mais je pense que volontairement, elle veut que je reste liée à la vraie vie, qu'elle veut que je sorte, que je m'habille, que je bosse, que j'apprenne la valeur de l'argent, que voilà, c'est pédagogique de sa part, elle m'aide beaucoup, mais financièrement, elle veut que je sois autonome. Et elle a raison, parce que je cherche des ressources en moi pour combattre cette mort. J'en veux à la terre entière. Je réagis à la mort de Patrick par... une espèce de violence qui me maintient en survie. C'est-à-dire, je trouve ça tellement injuste, parce que lui, c'est un montagnard. Mon mari, c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de faire des escalades, qui est moniteur d'escalade, qui est un grand montagnard. Et du coup, le fait que cet homme, qui pour moi symbolise une réassurance dans mon histoire, qui est l'homme avec un grand H, il est tout pour moi. Il est le père que j'ai pas eu, le grand-père que j'ai pas eu, le frère que j'ai pas eu, le mari que j'ai... C'est tout. Patrick, c'est tout pour moi. Et il meurt en 3 mois. Le cancer va de 1 cm en 15 cm dans le cerveau en moins de 3 mois. Et face à cette disparition subite, j'en veux aux autres d'avoir survécu. Et que lui, pourquoi il est mort ? C'est une injustice énorme. Évidemment, comme je crois en Dieu déjà, comme depuis toute petite, ça m'aide. Mais je lui fais un pari. Je lui dis, je te rejoindrai, mais avant de te rejoindre, je vais réparer plein de choses qui vont pas bien. Je vais être utile. Je vais faire des choses qui permettent aux gens d'avoir plus de force. Je vais réparer les injustices. Finalement, la douleur se transforme en espèce d'énergie où je me dis, je vais survivre. Je vais y arriver. Puis j'ai ma première fille. Qui s'appelle Lilia aujourd'hui, c'est elle aussi qui vient me réveiller et qui vient sans arrêt me dire mais j'ai faim, je voudrais un biberon. Et chaque heure je me dis bon, je me balancerai de la fenêtre au prochain biberon. Et puis finalement de biberon en biberon, je survis et je survis plus forte. Quand je survis à Patrick à ce moment-là, je deviens forte. C'est-à-dire, je sens que de lui survivre, finalement, je prends sa force et la mienne. Je la mets dans une boîte. Je sens que c'est pas plus rien pourra m'atteindre parce que je suis très fragile en même temps. Mais je sens que je développe une force en moi-même un petit peu grâce à lui. C'est comme si je m'allie à lui, en fait, et je deviens une femme forte.
Vous enterrez votre père pour la deuxième fois ?
Ça, c'est clair. J'enterre mon père pour la deuxième fois. Je crois que c'est même un moment où... il y a quand même quelque chose qui se passe vis-à-vis des hommes qui vient un petit peu s'ancrer. C'est-à-dire, je comprends mieux ce que ma mère m'a toujours dit. Tu dois compter sur toi. Et après, tu pourras aimer quelqu'un. Mais tu pourras pas aimer quelqu'un si ta vie repose sur lui. Ta vie doit reposer sur toi. Et après, tu seras encore plus disponible pour aimer quelqu'un. Et ça, je le comprends bien. Quand Patrick meurt, je l'intériorise vraiment. Et ça me sauvera dans le futur.
Dounia Bouzard, est-ce que c'est à ce moment-là que vous décidez de reprendre le chemin de l'école, le chemin des études ?
Oui, absolument. C'est à ce moment-là que je me réinscris à la fac. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai pas fait de seconde, j'ai pas fait de première, j'ai pas fait de terminale. J'ai quand même un capital intellectuel bien inscrit par l'éducation de ma mère, très complète. Et je choisis de m'inscrire en capacité en droit. où on peut rentrer à l'époque n'importe comment et qui vous donne un équivalent du bac. Je rencontre ces étudiants dans le soir à la fac, une fois que j'ai vendu mes produits de double vitrage la journée. La capacité en droit, ça se passe le soir. Je rencontre des gens qui travaillent, mais aussi des jeunes. Je me sens dans un monde à part quand même. Hein. Je me sens différente, mais je m'accroche. Je réussis bien, facilement. Tellement bien que je rentre directement en deuxième année de DEUG. C'est-à-dire que j'ai plus de 14 de moyenne. Et quand on a plus de 14 de moyenne, on passe directement en deuxième année de DEUG. C'est ce qui m'arrive. Et aussi, pendant toute cette période, du coup, je décide de devenir éducatrice. Au moment où je réussis ma capacité en droit, je postule au concours de la protection judiciaire de la jeunesse. Je veux devenir éducatrice à cette époque.
Alors, cette époque, c'est quand? Et est-ce que on parle, est-ce que vous pressentez déjà qu'il va y avoir besoin d'aide pour cette jeunesse qu'on commence à décrire comme délaissée dans les quartiers. Est-ce qu'on commence à parler de banlieue? Est-ce qu'on commence à parler de quartiers difficiles?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
C'est les années quoi, 80, 90?
Oui. Oui, c'est ça. C'est les années, oui, c'est les années 80, 90. Ce qui m'interroge, c'est que on parle de ces jeunes des banlieues, des territoires perdus de la République comme des jeunes qui seraient complètement différents. Et c'est vrai que moi, je me sens avoir du lien avec eux. Je ne sais pas trop à quel niveau, mais je ne les sens pas comme des étrangers. Je ne les sens pas comme une étrangéité en elle-même. Du coup, j'ai à cœur de tout de suite, très vite dans mon parcours, de montrer le lien humain au-delà des différences culturelles, au-delà des différences sociales, au-delà des parcours individuels. Et c'est vrai que dès que je deviens éducatrice, je construis un projet où par la culture, je vais rassembler des gens différents par un projet commun. Je monte une association qui s'appelle le Théâtre du Lien, comme par hasard. Et c'est une association cofinancée par, d'ailleurs, les contrats de sécurité à l'époque de plusieurs villes, où par la culture, par le théâtre, on va renarcissiser des jeunes qui sont plutôt délinquants pour leur redonner confiance en eux. Et je m'investis vraiment corps et âme là-dessus, parce que au moment où je rentre dans la protection judiciaire de la jeunesse, qui est une institution ministère de la justice, très réglementée, très stricte, avec des fonctions professionnelles bien déterminées, moi, à peine j'y rentre, à peine je conçois et je fais un peu une mini-révolution pour construire un poste nouveau, à part, qui serait la revalorisation et la réinsertion par le théâtre. Pourquoi par le théâtre? Oh, ben, tout simplement parce que j'ai toujours été ouverte sur plein de choses. J'ai aimé l'équitation, j'adorais le théâtre, j'aurais pu faire du cinéma. Enfin bref, tout m'intéressait au fond. Et je choisis le théâtre parce que je rencontre un metteur en scène qui s'appelle Abdel Baraka à l'époque, qui est aussi passionné par le lien humain. Et bon, voilà, on construit une troupe de théâtre avec des jeunes qui squattent dans les métros, qui sont dealers de drogue, qui sont multi-cambrioleurs, qui vont même plus pointer chez le juge des enfants tellement ils sont au-dessus de la loi. Il n'y a plus rien qui les retient, qui les socialise. Bref, ils vivent dans des squats avec de l'argent parallèle. Et je fais un pari avec ces jeunes-là en leur disant... j'ai besoin de toi pour transmettre des messages à la société. J'ai besoin qu'on montre qu'on se ressemble avant d'être différents, tous autant qu'on est, être humain, pauvre, riche, banlieue, centre-ville. J'ai besoin qu'on fasse des spectacles où on montre que la valeur humaine, elle est plus forte que tout et qu'on se ressemble d'abord. Et la différence, c'est après, c'est personnel, mais qu'est-ce qu'on se ressemble en fait? Bon, et en fait, je sais pas trop vous expliquer pourquoi, mais ça marche. Ça, la soupe, elle prend. Ces jeunes croient en moi, je crois en eux, on fait des spectacles magnifiques pendant des années, les juges me suivent, la protection judiciaire de la jeunesse un peu moins, hein. La hiérarchie, elle vient d'arriver, elle veut déjà faire son projet à elle, elle veut des budgets, comment ça du théâtre, mais ce qu'il faut c'est du boulot pour les jeunes. Bon, si ce n'est que personne n'avait du boulot et qu'en fait, on faisait des ateliers pour rien. Il y avait une contradiction entre l'insertion qu'on imposait aux jeunes et la réalité. Puis ces jeunes ne pointaient même plus, se fichaient complètement du cadre judiciaire. Ils étaient dans la toute-puissance totale. Donc, finalement, la hiérarchie de la PJJ me suit pas au début, hein, de la justice me suit pas, mais des élus comme ça, à droite, à gauche, me suivent, me donnent des subventions. Puis finalement, les juges me suivent. Les juges voient le résultat, hein, ils voient vraiment une transformation de leurs jeunes qui servent à quelque chose, qui ont une place, qui ont un projet, qui ont un message à donner, qui apprennent à nommer les choses, qui acceptent que je leur enlève leur chichon, leur alcool avant la répétition, qui prennent même une douche alors qu'ils sont dans des squats. Enfin bon, ils voient le résultat, les juges. Pragmatiques, les juges des enfants. Donc ils me suivent, ils interviennent, ils vont voir la PJJ, ils disent « foutez-lui la paix, laissez-la bosser ». Donc finalement, je construis ce projet et puis ce projet va durer 6-7 ans, va se démultiplier. Je vais avoir 7 troupes de jeunes. Les juges nous suivent parce que les jeunes se réhabillent, se lavent le matin pour venir faire du théâtre au début, sont revalorisés et donc sont vus par la population autrement qu'avant. On fait aussi des tas de trucs humanitaires en même temps. Quand on va dans les pays en Afrique et tout ça, on fait pas que du théâtre. On fait des collectes, on ramène des habits, on fait plein de trucs. Donc ils reprennent un rôle au sein de cette société, ils croient en eux, ils arrêtent de voler, ils arrêtent de frapper, ils arrêtent toutes leurs bêtises et ils se resocialisent. Et j'ai les juges qui me suivent et la PJJ finalement m'autorise de faire ça complètement dans le cadre de mon travail.
Mais alors dites-moi, Dounia Bouzard, qu'est-ce qui pousse la petite bourgeoise finalement que vous êtes à aller se frotter au bas-fond de la société? C'est quoi, c'est l'héritage de la maman ou c'est finalement un héritage inconscient du père?
Non, c'est l'héritage de la maman. Ma mère a toujours été militante. C'est quand même une communiste dans le cœur de ma mère jusqu'à maintenant. Elle a fini par rendre sa carte au Parti communiste quand on a su tout ce qui se passait en Union soviétique et tout ça. Mais je veux dire, c'est avec... ma mère reste communiste au fond de l'âme, hein. Et je crois que j'ai été élevée dans le communisme, avec un esprit de justice pour tous, de révolution quand même. C'est mon bagage d'enfance. Je peux pas rester dans mon petit quartier, chez ma mère, en train d'épouser, je sais pas moi, hein, parce que finalement je n'ai épousé que des chômeurs dans ma vie, hein. Quand on regarde, le seul point commun des hommes que j'ai aimés, c'était de pas avoir un sou. Non, je pense que c'est mon héritage intellectuel. C'est que je suis pas dans une famille d'intellectuels qui est détachée de la société. Je dois avoir un rôle. Je dois me rendre utile. J'ai un rôle sur Terre. En plus, Patrick est mort. Donc, je dois être utile, vraiment. Encore plus. Donc, c'est vrai que j'abandonne ma petite bourgeoisie et que je vis dans des quartiers vraiment, effectivement, mal famés, avec beaucoup de violence, des couteaux. Je désarme les jeunes tous les matins. Je fais vraiment la base de la rééducation. Mais j'y crois. Je crois que ça m'aide, moi aussi, parce que du coup, je sers à quelque chose, hein, parce que quand même, Patrick est mort. Je veux dire, c'est la grande solitude pour moi. Hein. Je pense que je m'en relèverai jamais. Et je survis, je suis en situation de survie. Et finalement, d'aider ces jeunes, ça m'aide à survivre, moi aussi. Parce que je vois bien qu'ils se redressent, ils prennent confiance en eux, ils acceptent les règles, ils se lavent le matin, ils vont carrément sur scène. Et quelle capacité, ils nous éclatent. On a gagné des prix. Justement, les 150 ans de l'année de l'esclavage, on a eu le prix. Je veux dire, mes jeunes qui étaient pas capables d'aligner deux mots à l'école, qui insultaient les flics et qui se lavaient pas le matin, ils ont eu le prix de l'année européenne. Ils se ressourçaient, se reconstruisaient, mais moi aussi, je me ressourçais, je me reconstruisais.
Puis vient le moment, Dounia Bouzard, où vous allez rencontrer, alors je sais pas si je suis dans la bonne chronologie, votre second mari.
C'est à ce moment-là.
C'est à ce moment-là que vous rencontrez Dounia Bouzard, votre second mari. C'est qui ce mari?
C'est quelqu'un qui est d'origine tunisienne, qui me tombe dessus, dans la rue. C'est pas très romantique. Qui a de l'emprise sur moi tout de suite. Moi, j'ai plus parlé aux hommes, hein, depuis la mort de Patrick. Je passe mon temps avec mes jeunes. Et un jour, cet homme dans la rue me dit « Toi, tu es la femme de ma vie ». Il me met le grappin dessus comme ça. Moi, ça fait 4-5 ans que je dis bonjour à personne, que je suis quand même très repliée sur moi-même. Je suis dans le deuil de Patrick. je suis une femme entière, authentique, fidèle. Rien ne m'intéresse à part la mort de Patrick. Bon, je suis vraiment dans mon. Dès que j'ai fini avec mes jeunes et avec les banlieues sordides, les trafics de drogue et les vomis, je me replie sur ma fille, hein. Bon, et là, lui, il fait autorité sur moi. Je ne sais pas trop comment. Et c'est vrai que très vite, on se marie plusieurs mois plus tard quand même, hein. Enfin, une année après, on se marie. Et à peine mariée, en fait, je suis dans une situation de violence extrême, hein, le jour du mariage, en fait. Le jour du mariage, je découvre un homme qui passe d'un homme coucounant qui me ressourçait à un homme qui devient très violent d'un coup d'un seul. Et j'ai la force de me séparer très vite, mais entre-temps, j'ai un deuxième enfant. Et donc, j'arrive quand même, hein, à. Je dis quand même parce que à chaque mariage, quand même, j'y crois profondément. Et je suis déjà blessée parce que la mort de Patrick, c'est quand même un abandon. Pour moi, Patrick, c'était mon mari, mais c'était mon père que j'avais pas eu, mon grand-père que j'avais pas eu, mon frère que j'avais pas eu. Hein, c'était tout, Patrick. Donc quand il meurt, je perds pas qu'un mari. Je perds tout. Je suis seule au monde. J'ai que ma mère en plus. J'ai pas de famille. Et quand je rencontre ce deuxième mari que je nommerai pas, j'y crois tout autant quand même. Hein. C'est 5 ans plus tard, j'y crois et je m'attends absolument pas à, comment dire, à être en danger. Pas du tout. Et donc, quand il devient violent, juste le jour du mariage, en fait, hein, pour être tout à fait juste, bah, je retrouve une force en moi et immédiatement, je me protège. Je protège l'enfant que j'ai dans le ventre et ma première fille. Et on se met à l'abri et j'entame 10 ans de fuite parce qu'en fait, cet homme se révèle être un psychopathe, vraiment, au niveau médical. Et du coup, pendant 10 ans, je vais avoir à peu près 40 déménagements avec mes enfants sous le bras, tout en continuant d'être professionnelle. Donc, je suis cachée. Je vais vivre des moments difficiles avec la justice qui va pas forcément être objective parce que moi, je suis quand même une fille de bourgeoise française. Lui, c'est un émigré d'origine maghrébine, de référence musulmane. Je vais avoir du mal à prouver ce que je vis, mais je vais y arriver quand même parce il devient tellement violent à mesure qu'il me perd que de toute façon, on a failli mourir plusieurs fois. J'achète une arme, je me défends, hein, voilà, je suis armée et je défends mes enfants. Et on survit, on survit. Je continue à bosser, je me ressource avec les jeunes, et je continue comme ça avec, bah, après mes deux filles, je continue, je me fortifie, me battre finalement. Je suis obligée d'accentuer mes capacités, j'ai envie de dire, parce que je suis vraiment seule avec mes enfants. Bon, j'ai ma mère, mais et je me libère, mais je mets 10 ans avec beaucoup de sang quand même, hein, beaucoup de sang. Et je me sens seule. Les institutions, je les trouve pas du tout compétentes pour gérer cette violence qui nous poursuit. Parce qu'en fait, ils me retrouvent. Hein. Je fuis régulièrement, je me cache, je vis cachée. Lui est tellement dans sa psychopathie qu'il est dans une posture où il veut nous tuer. C'est pour ça que je suis armée d'ailleurs. Hein. Je suis armée parce que je dois me défendre à la vie et à la mort. Hein. Il y a pendant de nombreuses années, je suis persuadée que l'un de nous va devoir mourir. Je fais les testaments d'adoption pour mes enfants, persuadée que évidemment il est quand même plus doué que moi pour me viser entre les deux yeux, ce qu'il essaye de faire à plusieurs reprises. Et en même temps, je n'ai pas de haine parce que je sais très bien. Qu'il a un déséquilibre et que au fond de lui, c'est la perte de l'amour qui le fait complètement éclater en violence. Et moi-même, je dois travailler sur moi parce que quand il est normal, on va dire, c'est difficile de faire le deuil de ce mari-là en se disant, il faut vraiment qu'on se sépare parce que sinon, je vais y laisser ma peau et mes enfants vont y laisser leur peau. C'est tout un travail, hein, face à la violence, de se dire, il restera violent parce que là, c'est impossible qu'il arrive à fonctionner autrement. Bon, donc je nous sauve la peau à toutes les trois, je me sauve la peau et finalement personne ne meurt, ni lui ni moi. Bon, la petite histoire, c'est que lui disparaît du paysage européen le jour où Sarkozy me nomme au Conseil français du culte musulman. Le Monde, Xavier Ternissien, journaliste du Monde, annonce ma nomination comme la personnalité qualifiée au Conseil français du culte musulman. Et là, il cesse les menaces et les violences et il disparaît. J'ai toujours regardé cet épisode de ma vie un peu de façon surnaturelle. Mais voilà, je suis enfin en sécurité, je peux me fixer, j'arrête de déménager tous les 3 jours. Et enfin, bon, j'ai mon premier livre qui vient d'être publié, mon deuxième, au moment de ma nomination par Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque. Et là, je fais face à ma vie réelle et je range mon pistolet sous mon oreiller en me disant, bon, j'ai l'impression qu'il a compris.
Dounia Bouzard, avant de nous séparer et de nous retrouver demain, est-ce qu'on peut dire que ce deuxième époux, dont vous identifiez la partie pathologique hein, de son caractère, est-ce que c'est lui, ce troisième homme de votre vie, va vous ouvrir les portes aussi de ce qui va être votre tâche par la suite, à savoir travailler sur la radicalisation, puisqu'il y a une dimension religieuse aussi dans l'attitude de cet époux violent. Il y a son côté malade, psychiatriquement parlant, puis il y a la religion qui s'invite aussi à cette douloureuse existence.
Oui, absolument. C'est vrai qu'on peut le dire comme ça. Au moment où je divorce, je deviens musulmane. C'est-à-dire que j'étudie les 3 religions monothéistes en me disant, est-ce que c'est le fait d'être musulman qui le rend violent comme ça? Parce que il y a des moments où il utilise l'islam pour essayer de me tuer, pour essayer de tuer mes enfants. Il va nommer l'islam pour rentrer là-dedans. Du coup, moi, je m'approprie cet islam pour l'étudier. Et en fait, je tombe amoureuse de l'islam et je divorce. Je prends la force de finir ce divorce-là. Donc, oui, je rentre en islam vraiment. J'épouse l'islam au moment où je divorce de ce mari musulman psychopathe que j'ai beaucoup aimé. Mais l'islam m'aide aussi. C'est vraiment à ce moment-là que je fais pas de conversion parce que les imams que je rencontre me disent, mais ton père est musulman, donc tu le sais pas, mais t'es déjà musulmane. Alors ça, c'est un concept qui m'a toujours étonnée. Mais en tout cas, j'embrasse l'islam.
Merci, Dounia Bouzard. À demain.
Merci, à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alain Lefkovitch avec Dounia Bouzard. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Vincent Abouchard, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr.